Votre lecteur, Jean-Jacques, numéro 282 de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Chemin de traverse. Une petite nouvelle dont je suis l'auteur. Au détour d'une belle futaie de vieux chênes, le sentier s'étrécissait, tournait brusquement à droite et butait contre le ballast d'une voie de chemin de fer. Une voie sans rail ni traverse. C'était surprenant. Un sentier, pour moi, c'est un secret qui ne se dévoile jamais vraiment. Un mystère qui m'appelle et auquel je ne résiste pas. Quand je vois un chemin qui s'enfonce et se dissout dans l'ombre des frondaisons, un raidillon qui disparaît au sommet d'une colline, une piste à renard qui trace un dessin compliqué le long d'un ruisseau, et même une ornière laissée par la roue d'un tracteur, j'imagine ce qu'il y a là-bas, juste après que la piste se fût dérobée à l'œil. Un secret que je dois découvrir. Alors j'avance, je passe le tournant, je gravis la butte, je franchis la rivière. Et ensuite, il y a un autre tournant, une autre butte et une autre rivière. Un autre secret. Alors vous pensez une voie de chemin de fer, rectiligne, visible de droite comme de gauche sur des centaines de mètres. C'était comme un mystère éventé, un secret de polichinelle. Je gravis le ballast et hésitais, un peu dérouté. Le chemin que j'avais suivi jusque-là continuait de l'autre côté de la voie, comme si de rien n'était, m'invitant à poursuivre ma route et à oublier l'incident. Mais ce chemin qui s'offrait à moi avec une simplicité, une familiarité auxquelles je n'étais pas habitué. Alors résolument, j'ajustai les brides de mon sac à dos sur mes épaules et m'engageai sur la voie du côté, tiens, pourquoi pas du côté droit. Quelques kilomètres, on verra bien. La ligne n'avait dû être désaffectée que depuis peu, car la forêt n'en avait pas encore pris possession. La progression était facile. Et monotone. Après une heure et demie de marche, alors que j'allais me décider à abandonner la voie au prochain sentier, j'aperçus au loin un bâtiment, des murs jaunes, un toit rouge et de hautes fenêtres, une gare, une petite gare de campagne désaffectée. En m'approchant, je constatai qu'elle n'avait subi aucun outrage, ni du temps, ni des hommes. Même les vitres étaient intactes. Je m'avançai sur le quai, contemplai un instant la façade où le nom du village, écrit en blanc sur fond bleu, était effacé et illisible. Puis j'ouvris la grande porte vitrée et pénétrai dans le hall. Il était vide, seulement meublé d'un large banc de bois fixé au mur et de quelques cadres, aveugles de leurs affiches publicitaires. Le guichet était composé d'une longue tablette de formica et d'une vitre épaisse, dans laquelle était encastré un dispositif transparent sur lequel une étiquette prévenait « Hygiaphone ». De l'autre côté de la vitre, une pièce plus petite, vide également. Ce qui me frappa, outre le bon état de l'ensemble, c'est la propreté des lieux. À peine si une fine couche de poussière recouvrait le sol et le guichet, et il n'y en avait pas trace sur le banc. Il n'était pas très tard, mais rien ne me pressait et l'endroit me plaisait. Je décidai d'y bivouaquer pour la nuit. Je posai mon sac près du guichet et en tirai tout le nécessaire. Le duvet, le réchaud à gaz, la nourriture, sous la forme essentiellement d'une boîte de raviolis, quelques vêtements de rechange. J'étais occupé à ces préparatifs lorsque des bruits de pas se firent entendre et que la porte s'ouvrit. Je me retournai brusquement, renversant le réchaud qui rencontra le carrelage dans un interminable cliquetis de métal. C'était une très vieille dame, avec un bonnet de laine sur la tête et vêtue d'un anorak trop grand pour elle. Un sac de toile informe pendait à son bras. Elle passa devant moi, me salua distraitement d'un signe de tête et trottina jusqu'au banc sur lequel elle prit place. Regards en coin, lèvres pincées. « Vous attendez quelqu'un ? » bafouillai-je. Elle tourna la tête, surprise, comme si elle me voyait pour la première fois, puis la releva dignement, sans répondre. Le silence qui s'installa entre nous n'eut pas le temps de devenir gênant, car la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois-ci, c'était un vieil homme qui entra, tenant par la main une petite fille de 6 ou 7 ans. Il était grand, le front dégarni, les joues mal rasées et le regard sévère. Il me gratifia d'un tonitruant « Bonjour, jeune homme !» qui résonna quelques secondes dans la salle d'attente, puis alla s'asseoir à l'autre bout du banc, sagement imité par la petite fille. Le silence retomba. Le vieil homme jetait des œillades furtives à la vieille dame, qui couvait des yeux la petite fille d'un air attendri. La petite fille m'observait, et moi je les regardais l'un après l'autre, l'esprit vide. La vieille dame plongea la main dans son sac, en fouilla les recoins quelques instants et en sortit un bonbon qu'elle tendit à la petite fille. Celle-ci quêta de l'œil la permission du vieil homme qui approuva d'un mouvement de tête. Et soudain il s'anima, s'approcha insensiblement de la vieille dame et lui dit d'une voix grave « Chère madame, vous êtes bien aimable d'offrir une friandise à ma petite fille. Vous attendez quelqu'un ? Vous allez quelque part ?» La vieille dame rougit un peu, me jeta un regard furtif et resta muette. Le vieux bonhomme se retourna vers moi et me fixa avec insistance, l'air exaspéré. Il m'envoyait un message si fort et si clair que je recouvris instantanément mes esprits. J'eus soudain le sentiment de me trouver dans une scène où je n'avais rien à faire, un intrus qui en perturbait le bon déroulement. Je me levai en souriant gauchement, sortis dans la nuit claire et tiède, et m'assis sur le ballast, en contrebas du quai. De toute façon, il n'allait pas passer la nuit ici. Je reprendrai possession des lieux quand il partirait. Une dizaine de minutes plus tard, la petite fille sortit à son tour et s'assit à côté de moi. « Tu as bien fait de ne pas rester, tu les gênais, et le grand-père risquait de ne pas arriver à ses fins. » « Ses fins ? Mais de quelle fin parles-tu ? Peux-tu m'expliquer ce qui se passe là-dedans ? » répliquai-je un peu agacé. La petite fille me lança un sourire en coin et me poussa du coude. « Ne me dis pas que tu n'as pas compris, un grand garçon comme toi. » « Non, je n'ai pas compris, et ne me traite pas de grand garçon, je pourrais largement être ton père. » « Mais enfin, c'est évident, grand-père drague. » « Il drague ? Tu veux dire qu'il ne connaît pas cette vieille dame et qu'il... Grand-père est un sacré dragueur. Son plan, c'est de m'utiliser pour engager la conversation, et ça marche à tous les coups. Sauf qu'aujourd'hui, tu as failli tout faire foirer. Mais je crois qu'il a récupéré la situation. « Tu as bien fait de sortir, » répéta-t-elle. J'étais interloqué. « Alors, ton grand-père, cette vieille dame ? D'abord, ce n'est pas mon grand-père, mais mon arrière-grand-père. C'est un de ses trucs pour se rajeunir. Et ensuite, cette dame n'est pas aussi vieille que ça, et j'ai l'impression qu'elle lui plaît drôlement. » Je méditais ces paroles quelques instants, et m'apprêtais à poser une nouvelle question lorsque la porte s'ouvrit. Le couple sortit de la gare et fit quelques pas sur le quai, nimbé de la lumière pâle de la lune. Il mesurait bien une tête de plus qu'elle et avait passé, avec une douceur maladroite, son bras sur son épaule. Elle rayonnait. Son visage rond était rose de plaisir. « Tu viens ? » dit-elle à la petite fille. « J'arrive, mamie. » répondit cette dernière en se levant. Elle prit la main de la vieille dame et ils contournèrent tous les trois la gare pour rejoindre une petite route goudronnée, mangée par la végétation. Juste avant de disparaître derrière un bouquet d'arbres, le vieil homme se retourna et me lança un clin d'œil. Je restai un instant debout au milieu du ballast, fixant l'endroit où ils avaient disparu. Puis je retournai dans le hall, fit réchauffer les raviolis et les mangeai à même la boîte. Je crois qu'il y avait un sourire sur mes lèvres barbouillées de sauce tomate, un sourire un peu bêta. Je me sentais bien.